Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ils ont été plusieurs à l'annoncer. Le premier ministre irakien Haïder El-Abadi, le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron préfère attendre quelques semaines avant de crier victoire, mais le message est le même. L'organisation État islamique ne contrôle plus que des lambeaux de territoire et quelques villages en Syrie. Pour autant, le sort des dirigeants de l'organisation qui a terrorisé la région pendant plusieurs années reste largement inconnu. Alors que l'EI a vu des branches pousser dans plusieurs endroits du monde musulman, est-il prématuré d'annoncer la défaite de l'organisation État islamique ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour tenter d'y répondre, deux invités sont avec nous en studio. Gérard Chalian, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopoliticien, spécialiste de l'étude des guerres et des conflits armés internationaux et auteur de « Pourquoi perd-on la guerre ?» C'est aux éditions Odile Jacob, c'est paru en 2016. Et Azim El Difraoui, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, auteur de « Le djihadisme », le « Que sais-je » aux éditions PUF, et « Al-Qaïda par l'image » aux éditions PUF également. Je vous pose la question très directement, et je commence par vous, Gérard Chalian. L'organisation État islamique est-elle vaincue ?
En Irak et en Syrie, indiscutablement, elle a été vaincue dans la mesure où c'est une organisation qui a prétendu territorialiser un énorme territoire. En tout cas, on l'a dit, puisque les journalistes écrivaient un territoire grand comme la Grande-Bretagne. Dans la pratique, d'ailleurs, il faut ajouter, pour ceux qui sont un peu géographes, que les deux tiers de la Syrie sont désertiques et qu'en fin de compte, ils contrôlaient essentiellement l'Euphrate.
L'Euphrate, oui.
Ensuite, disons que une guérilla ne doit pas territorialiser. Une guérilla, en principe, doit rester fluide. Les Vietnamiens, qui étaient les grands maîtres, n'ont jamais prétendu territorialiser quoi que ce soit. Ils régnaient la nuit, ils contrôlaient la population. C'est la population qu'il faut contrôler, pas le territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on est une guérilla? Quand on a en face de soi des aviations, la russe, l'américaine, la française, la britannique, etc. Ensuite, des blindés, des tanks et à un moment, des troupes motivées. Comme par exemple les Kurdes de Syrie ou l'armée réorganisée de M. Bachar al-Assad grâce aux soins de l'Iran. Donc effectivement, c'est une sérieuse défaite. Il faut ajouter que c'est une organisation par ailleurs remarquable, révolutionnaire du point de vue technique, réactionnaire du point de vue de l'idéologie et qui s'est admirablement battu. La résistance, par exemple, à Mossoul, très remarquable. Maintenant, bien sûr, ils ne sont pas finis, c'est-à-dire qu'il y a les ailleurs. Ils ont été au Sinaï, ils ont été présents aux Philippines, ils seront présents en Russie. Ils peuvent demain faire ceci, cela. Mais enfin, franchement, par rapport à ses débuts, par rapport à 14, par rapport au succès de 15, oui, c'est une très sévère défaite.
Azim El Difraoui, comment vous ressentez les choses ? L'État islamique en tant qu'État n'existe plus, mais en tant qu'organisation, par exemple ?
D'abord, j'ai une petite remarque à faire. Donc, le mot « admirablement battu », c'est quelque chose que je trouve extrêmement choquant. C'est les attaques suicides, à gogo, le sacrifice de la population civile, le sacrifice de femmes et tout ça. Donc, le mot « admirablement battu », c'est peut-être une maladresse. Mais ça, c'est quelque chose qu'il me semble rectifier. Deuxième petite considération, guérilla, l'État islamique, c'est pas vu comme une guérilla à ces moments-là où ils ont fondé l'État. À l'instar de l'Arabie Saoudite, qui était fondée sur le djihad au début du XXe siècle, ces djihadistes ont réellement pensé de pouvoir fonder une espèce de crypto-État ou un vrai État. Battu, l'État islamique, militairement affaibli, et là le mot guérilla encore, là ils peuvent revenir dans une stade guérilla, spécialement au Bilet el-Shem, à savoir le mot arabe pour
le
Levant, donc aussi une partie de l'Irak. Mais ce qui me semble de plus en plus de plus important, c'est à toute façon, Ben Laden était tué, le pseudo-calife de Mossoul va probablement être liquidé à un moment donné aussi. Mais l'idéologie du djihadisme est belle et bien présent dans nos endroits où ça s'appelle Al-Qaïda ou d'autres formations. Et par exemple, très intéressant, là, on a vu une recrudescence des attaques au Sinaï en Égypte, où l'État islamique a, par association, créé une branche. Donc, il ne faut pas crier victoire avant l'heure, et la lutte contre le djihadisme va de toute façon prendre encore quelques décennies.
Gérard Chalian, vous parliez de guérilla. Est-ce que l'organisation État islamique a encore suffisamment de force pour rester une menace de type guérilla avec des attentats suicides dans la zone irako-syrienne?
Franchement, pas grand-chose. Non, c'est un reliquat. Alors, quand on passe de la guérilla...
Comment mesurer ce reliquat? Ça fait combien de combattants qui sont dans la nature, à peu près?
C'est difficile. Dans les histoires de clandestinité, les types qui vous donnent des chiffres, c'est des gens qui font des estimations. Dans la pratique, autour d'Idlib, il y a certainement quelques centaines, peut-être 2 000, 3 000, peut-être. Bon, mais enfin, ça ne représente plus une menace. Les gens d'Al-Qaïda sont très contents de la défaite d'une organisation concurrente. Bon, ils vont être nettoyés sur le plan local. Je veux dire que c'est très secondaire ce qui leur reste. Ils ont été sur le terrain sur lequel ils avaient choisi de s'illustrer. Ils ont été battus. Maintenant, l'idéologie, ça ne se bombarde pas. L'idéologie, c'est quelque chose qui va durer. Elle est très répandue. Et on en a pour une décennie, peut-être deux. Très difficile de fixer ça. Des bombes, ils vont en mettre à gauche et à droite. Mais franchement, vous savez, des bombes, bon, c'est très bien. Mais enfin, c'est quoi? C'est finalement la preuve que vous existez. Mais c'est pas une puissance. Hein, c'est pas une puissance, le fait de faire des bombes. Les anarchistes, en leur temps, aussi, ils ont lancé des bombes. Ils ont tué même deux présidents de la République. Ils ont été présents partout en Europe, les têtes couronnées, etc. Bon, ben, qu'est-ce qui reste maintenant? Une note de bas de page. Alors, je veux dire, il faut pas surestimer, sous prétexte que c'est spectaculaire, toutes ces bombes. Voilà.
Où sont passés ceux qui sont restés dans la zone Azim El Difraoui? Est-ce qu'on sait, d'ailleurs, je pose la question tout en connaissant la réponse, est-ce qu'on sait ce qui est devenu Aboubakar al-Baghdadi?
Il y a des spéculations, donc on sait en effet pas combien de milliers de combattants sont restés sur place. Il y avait quand même beaucoup de morts. Aujourd'hui, on a aussi suivi les débats de jeunes djihadistes, entre guillemets, français qui veulent rentrer en France, qui s'étaient arrêtés par des Kurdes. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose que mon collègue l'a dit.
Allez-y.
À juste titre, donc il y a une retransformation en guérilla, et moi j'ai un peu peur d'une répétition de l'histoire, même si on sait que l'histoire se répète pas. En 2006-2007, on pensait que les premiers États islamiques en Irak étaient battus, militairement défaits. Mais qu'est-ce qu'on a vu 7-8 ans après? L'émergence d'un mouvement encore plus fort. Si on s'attaque pas aux racines du mal, à savoir le cause pour lesquelles l'État islamique s'est pu répandre en Syrie et en Irak, à savoir la discrimination contre les sunnites, l'exclusion politique des sunnites irakiens, la répression féroce de Bachar al-Assad. On verra peut-être cette répétition de l'histoire. Ces gens sont extrêmement patients, et dans 10 ans, on va avoir à nouveau avoir une espèce d'explosion de djihadisme en Irak et en Syrie. Donc on est loin d'être sorti de l'auberge.
Oui, Gérard Chalian, ce sont des gens qui ont eu déjà l'habitude de la clandestinité. Ils savent se fondre dans le paysage, si je peux dire ça comme
Bien
ça.
Bien sûr. Vous avez posé tout à l'heure la question de al-Baghdadi. Si on peut mettre un peu d'humour dans cette conversation, chez les duodécimains, c'est-à-dire chez les chiites qui croient à 12 imams, le dernier est caché. Ben, maintenant, avec les sunnites, nous avons un calife qui se cache.
L'état de la zone, les destructions, les millions de déplacés en Irak et en Syrie, est-ce que c'est pas finalement le meilleur terreau pour une résurgence, Gérard Chalian?
Pas nécessairement. Vous savez, ceux qui sont réfugiés, en général, c'est pas les plus combatifs, et il est rare qu'ils reviennent sur le terrain. Non, non. Ce qui peut très bien se passer, c'est par exemple les sunnites qui sont sur place et qui sont mécontents et auxquels on ne ferait pas les concessions nécessaires. Voilà, c'est ça qui compte. C'est qu'est-ce que le Bagdad va faire pour ses sunnites? Qu'est-ce que Bachar va faire pour ses sunnites? Voilà, c'est ça la vraie question. C'est pas les réfugiés. Les réfugiés, ils sont dehors. C'est fini pour eux.
Alors, Azim El Difraoui, est-ce que l'attitude des gouvernements locaux vis-à-vis des sunnites, qui avait été très dure, notamment de la part de l'Irak et l'ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, est-ce que ça, c'est la clé du problème pour essayer de contenir une résurgence de l'État islamique?
Oui, ça c'est clairement un des clés du problème, c'est-à-dire les sunnites qui ont gouverné l'Irak sous Saddam Hussein, même avant, depuis l'indépendance de l'Irak dans les années 40, se sont complètement marginalisés. Mais je voudrais aussi aller un peu plus loin. Si on regarde aujourd'hui la mouvance djihadiste de manière générale, on n'a jamais eu une expansion telle. Donc on a des djihadismes à travers, commençant par les Philippines, l'Indonésie, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, en Égypte, avec un régime très, très, très répressif maintenant, une résurgence, la Libye, on a le Sahel, on a des groupes en Afrique de l'Est et de l'Ouest, vraiment des groupuscules assez puissants. Donc comment est-ce qu'on va s'attaquer à ces problèmes? Donc l'État islamique, on l'a vaincu militairement, et c'est très important, mais on voit ces problèmes toujours trop à court terme, et on s'attaque pas à la misère socio-économique qui pousse ces gens vers le djihadisme, on s'attaque pas assez à l'idéologie, on s'attaque pas à des interprétations de l'islam extrémiste. Donc uniquement quand on développe une politique de l'ensemble, qui est pas uniquement répressif, on aura peut-être la possibilité de venir au bout du djihadisme à long terme.
Gérard Chalian, donc forte contraction militaire et administrative, si je peux dire ça comme ça, sur le terrain, mais quid de l'expansion idéologique? Est-ce que le djihadisme et l'État islamique, l'organisation État islamique, sont en phase d'expansion idéologique?
Oui, bien sûr. Et en plus, forcément bien aidé par le fric de l'Arabie Saoudite depuis maintenant 40 années. Il faut aussi le dire, ça. Hein, les Saoudiens, ils n'ont pas arrêté, tout en étant nos alliés, de faire tout ce qu'il fallait pour que le terreau sur lequel a poussé l'islamisme puisse se développer. D'autre part...
Est-ce que ça peut changer avec le prince héritier Mohamed Ben Salman?
Pour l'instant, certainement pas au Yémen. En tout cas, en ce qui concerne les Occidentaux, nous n'avons pas les mains blanches non plus. Les Américains, c'est eux qui ont marginalisé les sunnites en Irak. Hein, en voulant remodeler le grand Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on est allé faire en Libye? En définitive, en Libye, on a semé la zizanie, nous avons créé le dégât collatéral du Sahel. Bon, donc, dans cette affaire-là, vous voyez, bon, les racines des difficultés, on va pas les résoudre. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faudrait résoudre la pauvreté, le ceci et cela. Bon, il se trouve que l'islam se vend bien, que les mecs s'imaginent qu'ils vont restaurer la grandeur passée de l'islam, parce que qu'est-ce qu'ils veulent en définitive? Hein, l'idéologie, c'est nous sommes humiliés, on va revenir à la grandeur de l'islam. Eh ben écoutez, pour ça, il n'y a pas 36 façons de s'en sortir. Il n'y a qu'à regarder la Chine, il n'y a qu'à regarder l'Inde, il n'y a qu'à regarder des États plus petits comme la Corée ou le Vietnam. Il faut faire de la croissance économique. Ben, ils n'aiment pas le travail, les mecs. Voilà. C'est une chose d'aller se foutre une ceinture et de s'exploser. Mm-hmm. C'est une autre de dire qu'il faut se mettre au boulot.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Azim El Difraoui, de franchise, ou c'est moi qui emploie ce terme, dans d'autres théâtres. Afghanistan, Libye, Sahel, le nord du Nigeria. Est-ce que des transferts des combattants qui sont éparpillés dans la nature en Irak et en Syrie vers ces nouveaux théâtres d'opération, est-ce que des transferts, des déplacements sont possibles?
Complètement, mais plus difficilement. Mais là, apparemment, je suis pas encore d'accord avec mon collègue.
Ah ouais, si vous voulez réagir,
donc,
allez-y.
Moi, je réagis.
Allez-y.
Ils veulent pas travailler, les mecs. Ça, on peut pas dire. C'est-à-dire, il y a plein de jeunes, surtout, qui veulent absolument travailler dans ces genres de pays, qui trouvent pas de travail, qui trouvent pas un sens de la vie. Donc, ces remarques, à la limite, un peu préjoratives, je vais pas laisser aller. C'est spécialement le manque des opportunités socio-économiques qui pousse aussi des gens vers le djihadisme. De là, en effet, les pays comme la Chine ou l'Inde... ils ont créé des idéologies de développement très fortes, qui sont soit peut-être aussi un peu critiquables. Mais ce qui manque vraiment, et ça c'est une plus grande faible de cet islamisme extrêmement violent qu'on appelle djihadisme, qu'ils n'ont pas de vision positive à l'avenir. Ils ne savent même pas restaurer une grandeur d'islam. La grandeur de l'islam, c'était un moment de la culture arabo-islamique où c'était une culture ouverte, regardant Grenade ou Bagdad sous le grand calife, mais tout ça. Donc, faut quand même qu'on mène aussi un grand débat parmi les islamistes aussi non violents, comment on restaure peut-être une culture qui est une culture d'ouverture, qui a vraiment contribué quelque chose à l'humanité, et pourquoi on n'est pas capable de faire ça aujourd'hui.
Il y a un débat, Gérard Chalian, au sein de l'islam, entre des musulmans, disons, modérés, et cette frange qui, manifestement, pour le dire d'une autre manière, est plus dans l'idéologie révolutionnaire de la destruction de ce qui existe.
Pour l'instant, ce sont... comment dirais-je, ceux qui sont pour la violence, qui de très loin l'emporte. Et effectivement, les conditions existent. Bon, on n'a pas parlé par exemple du Bangladesh. Au Bangladesh, il y a une montée indiscutable de l'islamisme. Il y a un tas de pays comme ça où ça grimpe et où on n'en parle pas parce que les lames de fond, ça se remarque pas. Ce qu'on remarque, c'est les actions spectaculaires. Et ça, c'est très important. Bon, on est en face, si vous voulez, d'un phénomène qui peut aisément mobiliser des gens disposant d'un bagage intellectuel relativement fruste, parce que on semble leur offrir véritablement un programme, quelque chose qui fait que vous êtes enthousiasmé, etc. Bon, bah, quand on est jeune, c'est plus chouette que d'aller magasiner.
Alors, Azim El-Difraoui, est-ce que il y a quand même des idéologues derrière tout ça qui font de la propagande? Est-ce que c'est cet aspect de l'outil de propagande de l'État islamique qu'on a beaucoup vu fonctionner au moment de la toute puissance dans la région. Est-ce que cet outil de propagande, il est cassé ou est-ce qu'il continue à fonctionner?
Donc il y a deux choses. Il y a les idéologues, le grand idéologue du djihadisme. Et là, c'est très étonnant. L'État islamique, contrairement à Al-Qaïda ou le mouvement prédécesseurs, ils n'ont pas produit de grands idéologues reconnus parmi toute la mouvance djihadiste, où ils étaient très efficaces, ces djihadistes de l'État islamique, c'était dans la propagande de la terreur totale. Donc la machine, c'était surtout la machine de la propagande qui a repris des éléments antérieurs de cette idéologie si détructrice, qui était tellement efficace. Et ça, c'était pas uniquement le génie maléfique de pseudo-État islamique. C'était aussi une constellation historique où on avait soudain la révolution de Web 2.0 avec les réseaux sociaux, de centaines de jeunes djihadistes du monde arabe, mais aussi de l'Europe, qui étaient ce que les Américains appellent les e-natives, donc les natifs de l'Internet, qui savaient très bien manier tous ces outils de propagande, mieux jouer avec un téléphone portable et sa caméra que tirer avec une calade Kalachnikov, qui a rendu cette propagande si redoutable.
Gérard Chalian, cet outil de propagande de l'État islamique, il est cassé ou pas?
Remarquable, c'est des enfants d'Hollywood, ils ont fait un grand pas en avant par rapport à la propagande d'Al-Qaïda, et d'autre part, ils ont quelque chose de totalement nouveau, c'est la barbarie spectaculaire et ouverte. En cela, si vous voulez, ils rappellent les Mongols, qui, eux, semaient la terreur de façon consciente, de façon à ce que la rumeur de la terreur les précède. Ça cachait leur petit nombre, ils se sont beaucoup servis de ça, et puis nous, dans nos télévisions, bah, on a été leurs excellents relais.
Azim El-Difraoui, c'est que le corpus de la propagande, un corpus qui a été créé dans les années 80 du siècle dernier en Afghanistan, jusqu'à aujourd'hui par Daesh, et encore présente sur l'Internet, donc prête à l'emploi. Donc là, ça donne à penser qu'est-ce qu'on fait à long terme pour vraiment réfuter cette idéologie, rendre l'accès à cette idéologie très dangereux qui est partout sur la toile plus difficile.
C'est-à-dire qu'avec la chute de l'État islamique, cette idéologie est toujours sur les réseaux, elle circule un petit peu moins, c'est ce que vous voulez dire ou...
Peut-être elle circule un peu moins, mais elle circule encore beaucoup et beaucoup trop, donc elle est présente.
Gérard Chalian, vous parliez d'une ou deux décennies.
Ça c'est très difficile. Ce qu'on peut dire, dans la contre-insurrection, il faut leur dénier toute victoire. La victoire de 2014, ça a été un appel d'air extraordinaire. La victoire paraissait au bout du fusil. Ben, il faut dénier ça. Il faut que nulle part, ils n'arrivent à triompher. Alors, des bombes, ils peuvent en lancer tant qu'ils veulent, mais ils ne changent pas le rapport de force dans le monde avec des bombes.
Merci Gérard Chalion, merci Azim El Difraoui d'avoir participé à cette émission, d'avoir participé à ce débat. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Arthur Tossou, Emmanuel Sevin à la documentation et à la réalisation ce soir, Jean-Philippe Rémy. Vous pouvez nous retrouver, nous podcaster sur le site internet de RFI. Prochain débat, demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous. Merci.